Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What time is it now? Time is it now? Talk to that.
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 333 du podcast Touchdown Actu. T'as vu, on est à mi-chemin du chiffre du diable, dis donc. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver. Grégory Richard est à mes côtés. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous.
L'émission, ça va, t'es pas trop mal à l'aise avec les histoires de diable ou quoi? Je voulais pas gaffer.
Non, ça va, je suis un peu superstitieux, tu le découvres pas aujourd'hui. Mais bon, je pense que je vais pouvoir m'en remettre pour la suite de cette émission.
On va en parler tout à l'heure d'ailleurs, parce que ta superstition pourrait peut-être me permettre de reprendre un point sur les pronostics. J'ai regardé ça avant l'émission. L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet, tous les paris en ligne sur la NFL, c'est sur Unibet. Les matchs aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire parce que vous pouvez regarder les matchs quand vous avez un compte crédité. N'hésitez pas à y aller en passant par les liens sur le site ou les liens qu'on donne sur Twitter. C'est la dernière semaine de saison régulière, la course au play-off épisode final est lancée avec un retour de Marc. On va parler de tout ça, de l'affiche de la semaine, des pronostics, des meilleure cote, c'est parti pour une nouvelle émission. Seattle Seahawks, 11 victoires, 4 défaites. San Francisco 49ers, 12 victoires, 3 défaites. C'est l'affiche de la semaine. Grégory, ce sera la toute dernière affiche de la saison régulière puisqu'elle sera jouée en prime time dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. On va vous donner les enjeux pour chaque rencontre à chaque fois puisqu'il y a toujours des petits enjeux de placement dans la course au playoff ou de qualification éventuellement. Dans cette rencontre, une victoire et les Niners sont tête de série numéro 1 en NFC. Ça veut dire qu'ils auront une semaine de repos et l'avantage du terrain jusqu'au Super Bowl. Face à eux, les Seahawks avec la grande nouvelle de la semaine, Grégory, on l'avait pas vu venir, je crois qu'on en parle même pas mardi, ou alors si, la rumeur juste avant l'émission de mardi, Marshawn Lynch est de retour, alors Robert Turbin aussi hein, d'ailleurs je précise, il remplace ces deux-là, Chris Carson blessé, CJ Prozise blessé, Rashad Penny blessé. Est-ce que tu crois à ce retour grec de Marshawn Lynch qui vient quand même en... Ça ressemble quand même à un move du désespoir pour une équipe qui commence à avoir énormément de problèmes de blessures en cette fin de saison.
Oui, très clairement. Alors, c'est sûr que, encore une fois, je peux comprendre en tant que fan des Seahawks qu'on soit extrêmement excité par cette signature. Ça reste forcément un joueur historique de la franchise qui a notamment joué un rôle majeur dans le sacre des Seahawks il y a quelques années de ça au Super Bowl. Maintenant, c'est vrai que bon, c'est en effet un move un petit peu désespéré. 33 ans maintenant, Marshawn Lynch, je ne sais pas si tu l'as dit, hein, mais en tout cas, il me semble que c'est ça. On l'avait quand même quitté chez les Raiders en n'étant pas en très très grande forme. Donc, je ne sais pas s'il va arriver, on va dire, malgré en effet le fait que le backfield offensif était dépeuplé de par les cascades de blessures qu'il y avait ces dernières heures. Si vraiment Marshawn Lynch arrive en apportant un jeu au sol pleinement performant et en tout cas pleinement en forme pour décharger suffisamment Russell Wilson sur un match aussi importantissime que celui qui va jouer contre San Francisco.
Et c'est vital pour eux parce qu'ils ont le troisième jeu au sol de la ligue à l'heure actuelle avec 138 yards par match. Ils sont juste derrière les Ravens et les 49ers. Donc c'est vital en plus pour eux d'avoir un jeu au sol qui marche. Et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il a 33 piges. Les dernières nouvelles qu'on avait eues de lui, c'était la semaine dernière quand il servait des shots sur le tailgate des Raiders. On n'a pas eu... alors corrige-moi si toi t'as entendu des trucs, mais j'avais pas eu le sentiment que pendant la saison, on nous disait qu'il était particulièrement prêt à revenir ou qu'il se maintenait en forme. Parce qu'il y en a qui font leur promo un peu là-dessus, qui mettent des vidéos aux réseaux sociaux, etc. Moi, je me rappelle qu'il y avait une vidéo où on l'avait vu qu'animait un camp où il avait l'air quand même... en chair, quoi. Il avait l'air de...
Oui, c'est ça. C'est
d'avoir que, vécu, quoi.
Voilà. Est-ce que vraiment il a réussi à maintenir cette hygiène de vie de haut niveau ou vraiment, ou en effet, parce que voilà, ça a souvent été un running back très dur à plaquer, mais parce qu'en effet, il était très tanké. Est-ce que, on va dire, le muscle s'est un peu plus transformé en graisse? C'est ce qu'on va pas tarder à constater contre un run stop, de San Francisco qui est pas forcément un des meilleurs de la ligue. Mais qui en tout cas a peut-être la capacité, en tout cas de ce qu'on en a vu le week-end dernier, de ce qu'on a montré à Arizona, a peut-être la capacité éventuellement de freiner un tant soit peu un joueur qui est clairement plus l'un des meilleurs running backs de la ligue qui pouvait être il n'y a pas si longtemps que ça.
Et puis encore une fois, il y a cet inconnu là de la préparation physique. C'est quand même pas anodin de revenir dans un match NFL. Il y a beaucoup de blessures musculaires de joueurs tout au long de la saison, des ischios, des machins, des claquages, des mollets. Il n'est pas immunisé contre ça non plus. Il avait été mal blessé, tu l'as dit, hein, quand il est sa dernière saison à Auckland, il joue 9 matchs ou 9 ou 6, je sais plus, 9 matchs, je crois. Donc voilà, il n'est pas dans une forme exceptionnelle.
Oui, et puis juste pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que là, pour le coup, on va vraiment arriver en configuration playoff. Là, c'est un match de pré-playoff, c'est-à-dire que il va pas reprendre sa carrière à NFL dans un match où on va lui dire bon, on va te laisser quelques petites répétitions, etc., etc. Là, dès le début, les défenseurs vont vraiment lui rentrer dedans en lui disant on va marquer notre territoire comme ce sera le cas à partir du mois de janvier. Donc c'est pas une mise en condition, je trouve, idéale pour un joueur qui a pas porté un casque et des épaulières depuis des mois et des mois et qui peut, à l'instar des joueurs qui sont déjà blessés du côté de Seattle, sortir aussi assez rapidement en l'occurrence.
Ouais, disons que l'idée est belle, mais ça semble peu probable de le voir exploser.
Oui, c'est ça, c'est un concept romantique. Après, est-ce que vraiment, d'un point de vue purement pragmatique et calculateur, si je peux dire ainsi, dans l'optique des playoffs et du type de division que veulent viser les Seahawks, est-ce que c'était la meilleure solution? Je sais pas, je le souhaite à Seattle, mais bon, en plus, quand on sait qu'ils ont un coordinateur offensif pas toujours inspiré, à voir.
Après, par contre, si ça marche, à l'inverse, c'est une histoire de dingue, on va nous bassiner avec ça pendant 2 semaines, ça va être le sauveur, ça va être incroyable. Pour encore enfoncer le clou sur le fait que le jeu au sol est impératif pour eux, ils ont encaissé quand même 47 sacks cette année, ils ont la 26e ligne offensive en termes de protection de passe en NFL, donc ils peuvent vraiment en plus pas se permettre de tout miser sur la passe. Après, la question que j'allais te poser, moi, pour contrebalancer ça, c'est est-ce que la défense des Niners est aussi forte qu'au début de la saison? Ils ont eu aucun sac contre les Rams, 2 contre les Falcons, aucun contre les Saints, 1 contre les Ravens sur les 4 derniers matchs. Donc ça fait 3 sacs sur les 4 matchs écoulés.
Oui, c'est sûr. Après, c'est ce que j'allais te dire également. C'est sûr que autant le run-stop de San Francisco, en effet, c'est pas un des plus denses, un des plus, en tout cas par rapport aux standards qu'on connaissait il y a quelques années, hein, puisqu'on est sur le côté un petit peu nostalgie côté de Seattle. C'est sûr que si tu te rappelles un petit peu les années Willis Bowman du côté de San Francisco, c'est pas exactement, on dira statistiquement, le même rendement à l'heure actuelle. Maintenant, je parlais un petit peu des sources d'inspiration qu'aurait pu leur donner les Cards. Il y a quand même 4 sacks pour Chandler Jones le week-end dernier. Pour Chandler Jones à lui tout seul contre cette ligne offensive des Seahawks. Elle est un peu moins en difficulté que ces dernières années. Maintenant, sur un match encore une fois comme ça, ou comme je disais tout à l'heure, la défense de San Francisco, un petit peu comme ce qu'on avait vu, hein, parce que cette équipe de San Francisco, elle est un petit peu difficile à évaluer dans cette deuxième partie de saison. C'est-à-dire qu'on la voit un petit peu outsider sur le match à domicile contre Green Bay et ils arrivent à gagner assez largement. Du côté de New Orleans, on se dit ça va être un petit peu compliqué. Ils arrivent à gagner. À Baltimore, ils perdent, mais de très peu. Mais on voit que mine de rien, quand ils sont en déplacement, ils ont l'air quand même d'être un peu plus concernés, un peu plus incisifs quand même. Et c'est vrai que sur ce match-là, encore une fois, dans un match avec un énorme enjeu et avec une ligne offensive qui va peut-être avoir du mal au niveau du jeu au sol avec encore une fois un Marshawn Lynch qui est pas forcément dans ses plus grandes années, avec un pass rush qui je pense va sans doute monter en niveau. Ça peut être un match relativement compliqué, je pense. C'est quand même un match-up sur lequel je donnerais une petite longueur d'avance à San Francisco en l'occurrence.
Oui, et puis après, moi je me faisais l'avocat du diable, mais il reste quand même toujours premier contre la passe et deuxième sur, sur le total de yards encaissés, les Niners. Donc c'est quand même une très très bonne défense, toujours.
Oui, excuse-moi, non, je t'allais peut-être en parler, mais en plus il y a le retour de Richard Sherman quand même à Seattle. Le vrai retour de Richard Sherman, on dira, plus ou moins en forme depuis qu'il est parti, depuis qu'il est parti des Seahawks. Donc c'est vrai que là, d'un point de vue scénario, il y a pas forcément que le retour de Marshawn Lynch. C'est vrai que là, le retour de l'ancien enfant terrible de Seattle dans un match aussi important où San Francisco peut valider la première place, c'est un match qui, je pense, va lui tenir à cœur.
Alors, tu allais parler de Sherman, moi j'allais surtout parler de l'absence de Duane Brown aussi sur la ligne offensive de Seattle, qui facilite encore moins les affaires de cette attaque des Seahawks. On parle moins de l'autre opposition, mais je pense que de l'autre côté, c'est assez clair que San Francisco a les clés, surtout là encore avec les blessures. Alors, au moment où on se parle, tout ça c'est incertain, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être certains qui vont jouer, d'autres pas dans les noms que je vais vous citer, mais Jadeveon Clowney, Quandre Diggs, Shaquille Griffin, c'est pas anodin qu'ils soient gênés par des blessures ou en instance de retour, ou peut-être de retour mais pas à 100%. San Francisco semble avoir l'avantage dans cette opposition là.
Oui, alors après on sait qu'il y a des petits bobos également du côté de San Francisco, mais c'est sûr que ça n'en est pas à ce niveau là quand on a autant de joueurs du côté de Seattle qui en effet participent même pas aux entraînements, parce que c'est vrai que tu parlais de Ben Brown, on peut citer Mike Iupati également au centre de la ligne, enfin il y a énormément de monde, c'est vrai, et là ça commence un petit peu à être préjudiciable en l'occurrence. Quand on en arrive à perdre à domicile contre Arizona alors qu'on a quand même les clés en main, c'est que voilà, c'est pas sans dommage de la part de Seattle. Maintenant, oui, je peux difficilement dire le contraire. Alors je pense que défensivement, un Jadeveon Clowney devrait être remis, un Shaquille Griffin également, mais ça fait quand même beaucoup de pépins, et rien qu'en attaque ça m'inquiète un petit peu, et pour stopper cette attaque au sol de San Francisco qui n'a pas fait un match extraordinaire, je trouve, contre Los Angeles non plus. Faut pas l'oublier. On insiste beaucoup sur les loupés, notamment offensifs, de Seattle contre Arizona. Mais San Francisco contre Los Angeles, il y a 2-3 trucs à dire quand même. Il y a un Garoppolo qui n'a pas été parfait avec notamment 2 interceptions. Il y a un jeu au sol qui a été un petit peu muselé. Enfin, San Francisco, San Francisco, je trouve, on pouvait s'attendre à ce qu'il tape un peu du poing sur la table après avoir perdu de manière assez bizarre à domicile contre une équipe comme Atlanta qui était à sa portée. J'ai pas dans l'idée que même si les Rams étaient pleinement dans la lutte pour les playoffs, gagner de la manière dont ils ont gagné, ça rassure totalement sur la capacité de San Francisco à être vraiment dominateur en playoffs. Ouais. Mais on en revient encore et toujours à la même chose, c'est sûr que voilà, d'un point de vue santé et d'un point de vue, on va dire, forme du moment, c'est toujours mieux d'être dans l'état actuel de San Francisco que de celui de Seattle.
Honnêtement, moi j'ai plus peur pour Seattle, au sens où, je ne vais pas dire que leur bilan est flatteur, mais par rapport à l'état de forme actuel, que ce soit les blessures, que ce soit des fois les choix de jeu un peu douteux, que ce soit la profondeur sur les solutions, etc., j'ai un peu peur que cette équipe de Seattle elle finisse un petit peu la saison en titubant et que ça soit compliqué en playoff face à des écuries comme les Saints, comme les Packers, comme voilà. Enfin, c'est très costaud au-dessus, dans
c'est
le haut
sûr.
De la conférence. Et,
après, si tu veux, moi, en fait, ce qui est toujours compliqué avec cette équipe de Seattle, c'est que ça reste quand même une équipe qui fonctionne beaucoup au mental. Oui. Qui est capable de vraiment se sentir pousser des ailes dans les moments un peu clutch, que ce soit avec des titulaires ou non. Et on en vient presque à ce genre de situation. J'ai presque envie de te dire, et c'est ça qui rend vraiment ce match, il y en a beaucoup dans cette 17e semaine qui sont énormément et extrêmement difficiles à pronostiquer de par les différents contextes, les joueurs qu'on va faire reposer ou pas. Mais c'est vrai que du côté de Seattle, on est dans une situation où ça aurait été à San Francisco, je t'aurais dit voilà, Seattle va quand même avoir énormément de mal à gagner, mais au Century Link Field, ils sont capables de prendre feu à n'importe quel moment, encore plus dans un quatrième quart qui tournerait éventuellement en leur faveur, quoi.
On termine, Greg, avec un pronostic sur ce match. Est-ce que San Francisco termine numéro 1 de la NFC en gagnant, ou est-ce qu'il laisse de l'espoir à ceux qui sont derrière, les Saints et les Packers, dont on va reparler après? Ah ouais, t'es incertain à ce point-là. Là, tu te prends les lèvres
dans la main, tu hésites
devant ton micro.
Alors, je vais faire une révélation, parce que Alain Fanfaronne, alors qu'il sait très bien, puisque du coup, on a déjà rempli la grille des pronostics, Et j'ai quand même mis Seattle justement par rapport au dernier argument que j'ai évoqué, ou en tout cas par rapport au fait justement que Seattle, on va dire, dans l'euphorie, pouvait éventuellement s'imposer. J'avoue que j'ai des doutes quand même. J'avoue que j'ai des doutes. J'irai quand même avec San Francisco sur ce match-là et je modifierai mon pronostic si tout le podcast est terminé.
Allez, j'ai la fiche devant moi, regarde, j'ai le fichier Excel, je te le modifie. 49ers s'est enregistré. Et bah écoute, je mets les 49ers aussi pour les blessures. Et encore une fois, je pense que ça trouve plus de solutions quand même. Il y a plus de solutions possibles avec San Francisco. Donc on va être là-dessus. Les pronostics, tu fais bien d'en parler. Petite pause et on parle des scores.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Let's go! Work on three! One, two, three, work!
Les pronostics de la semaine 17. Mais avant de passer à ça, on parle des résultats. La semaine dernière, 10 points pour Raoul, pour Grégory, pour Raphaël et 12 points pour Camille et moi-même, ce qui veut dire que je grappille un tout petit peu. 143 pour Camille, 148 pour Raoul, 149 pour Raphaël, 150 pour moi-même et 153 pour Grégory. Ça se resserre, hein. Tout le monde est en 5 points. Sauf Camille qui est un peu larguée, mais 5 points entre Raoul en 4ème et la tête de course avec Grégory, donc c'est plutôt pas mal. Ça m'embête que t'aies mis les 49ers du coup tout à l'heure parce que c'était indifférent, j'espérais grappiller sur celui-là, mais bon. C'est pas mal, il faut être patient.
J'avoue, si je veux jouer la sécurité, je joue la même chose que Camille, hein. Au moins, je serais sûr de ne pas avoir de gage en fin d'année. Hein,
Ouais, mais après, on rappelle. Alors, c'est vrai qu'on le fait moins maintenant qu'on a un fichier, qu'on remplit un peu. Mais normalement, c'est toujours censé être par ordre du classement qu'on fait les pronostics et que les derniers peuvent s'aligner. Bon. Les pronostics de la semaine. Donc, on commence avec les matchs de dimanche à 19h. C'est la première fois de l'année où il n'y a pas de match le jeudi. Merci pour mon sommeil. Yes, c'est la première fois que je vais dormir dans la nuit de jeudi au vendredi. Dimanche 19h, Patriots, 12 victoires, 3 défaites. Dolphins, 4 victoires, 11 défaites. Victoire égale semaine de repos pour New England et deuxième place dans la conférence. Ils ont une meilleure attaque depuis la semaine dernière, une grosse défense, a priori contre Miami. En fin de saison, ça doit passer.
Oui, je pense qu'on va aller vite sur ce match-là parce qu'il y a un enjeu pour New England. Il n'y en a plus trop du côté de Miami non plus, même si ils font une deuxième partie de saison qui est quand même assez intéressante. C'est un match, très franchement, que je vois New England gagner. Perdre le deuxième spot maintenant, ce serait quand même un petit peu fâcheux après avoir fait le boulot, on dira, en battant Buffalo, en allant chercher la division.
Ouais. Oui, et puis ils ont montré justement qu'ils pouvaient être un peu plus solides au sol et dans l'ensemble en attaque, donc ça devrait continuer là-dessus. Donc Patriots pour tout le monde ?
Oui.
Et Patriots pour nos trois collègues aussi, j'ai tout sous les yeux. Chiefs, 11 victoires, 4 défaites. Chargers, 5 victoires, 10 défaites. Victoire plus défaite de New England. Donc victoire des Chiefs plus défaite de New England égale deuxième place dans la conférence pour les Chiefs et la semaine de repos qui va avec. S'ils gagnent, mais que New England gagne aussi, les Chiefs restent à la troisième place. Là encore, c'est un peu comme le précédent, ça semble quand même largement à la portée des Chiefs sur leur dynamique. Est-ce que tu y crois d'ailleurs, on en a parlé mardi, c'est l'occasion de te demander ton avis, est-ce que tu crois à cette défense des Chiefs qui monte un peu en puissance ces dernières semaines, 5 matchs qui n'ont pas pris plus de 17 points, certes contre des attaques moyennes, voire moins que moyennes, mais quand même.
Oui, parce qu'il y a quand même, il y a malgré tout des joueurs expérimentés, des personnalités qui connaissent mine de rien les échéances du mois de janvier. Ils ont leur taulier habituel, hein, des Chris Jones, ce genre de profil là. Et c'est vrai que des Frank Clark qui arrivent de Seattle, des Terry Suggs qui arrivent de Baltimore, des Tyrann Mathieu qui a déjà également connu les playoffs, il me semble, du côté d'Arizona notamment. Voilà, c'est des profils que tu peux pas mettre de côté. On a beaucoup critiqué un coach comme un coordinateur défensif comme Spagnuolo, mais on a vu également qu'il était capable d'élever le niveau de sa défense quand il fallait le faire aussi. Même si des fois, ça peut être très bon comme ça peut être très mauvais. En tout cas, dans un contexte de playoff, il est capable de développer également ses défenses et d'apporter pas mal de pression. Donc ce sera vraiment une équipe très compliquée. Les Chiefs, ils sont dans un état d'esprit, je le répète, depuis la bye week, où vraiment pour l'instant ils sont assez inarrêtables. Il me semble pas d'ailleurs qu'ils aient perdu depuis leur semaine de repos, hein, je vais pas me tromper.
Je l'ai pas sous les yeux, mais c'est possible, ils enchaînent bien depuis quelques semaines.
Donc c'est vrai que non, c'est une équipe très franchement avec Baltimore et New England. Je pense que dans l'AFC ça a beaucoup beaucoup
Ouais.
bataillé. Je les écarterai pas tout de suite. Pour anticiper sur le match en l'occurrence, j'y vais sur Kansas City parce qu'en plus il me semble que s'ils perdent et que Houston gagne, ils peuvent passer quatrième. Et
Alors attends,
je sais pas si le
si qui
scénario est
perd?
possible.
Non, Houston n'a pas d'enjeu, si je dis pas de bêtises ou j'ai un doute. Je ne sais plus. Non, je crois que Houston est bloqué.
Ah d'accord, bon bah écoute, bon, bah, mais
Normalement, j'ai tout noté. Attends, je me remets
parce que
les
Houston,
scénarios.
est à une défaite derrière, ils avaient gagné à Kansas City,
Non,
donc j'ai un doute
Houston
sur
n'a pas de
le...
possibilité. Non, non, Houston n'a pas de possibilité. J'ai
D'accord,
les
ok.
scénars de la NFL devant le nez, ils mettent rien pour Houston.
Bon bah autant pour
Donc.
moi, mais je pense quand même que Kansas City va essayer de jouer le coup pour assurer la bye week, et c'est pour ça que j'irai plutôt vers les Chiefs sur ce match-là.
Et puis bon, ça reste quand même très irrégulier et fin de saison un peu sur une jambe des Chargers maintenant en attendant l'année prochaine et Los Angeles dans leur nouveau stade. Il n'y a plus grand-chose à attendre, surtout s'ils font jouer Melvin Gordon visiblement. Donc je vais dire les Chiefs. Buffalo Bills, 10 victoires, 5 défaites. New York Jets, 6 victoires, 9 défaites. Alors les Bills sont bloqués en 5e position, il n'y a pas d'enjeu pour eux dans ce match, mais ils devraient faire jouer une majorité de leurs titulaires. Mais pas tout le match. Ils ont dit aussi que Matt Barkley pourrait jouer au poste de quarterback par exemple. Donc c'est pas facile à pronostiquer. Après, on peut quand même voir leur défense faire la différence assez vite. Les Jets sont la pire attaque de la ligue, avec 273 yards par match en moyenne. J'ai envie de dire, ils peuvent presque avoir besoin d'une mi-temps, quoi, pour marquer, je sais pas, 15-20 points, après avoir intercepté une ou deux fois Sam Darnold ou arraché un fumble sur un sac. Mais ça va être serré, hein. Les Bills ont gagné 17-16 en première semaine.
Ouais. Typiquement, c'est un des matchs les plus chiants de la semaine à pronostiquer parce que je te rejoins.
Complètement.
Oui, ils vont peut-être pas faire souffler tout le monde, mais j'ai du mal à voir les Bills faire jouer plus d'un quart-temps leurs principaux titulaires. Et on est toujours dans le scénario que j'évoque depuis plusieurs semaines, à savoir ces fins de saison où les Jets vont se réconforter en se disant qu'ils ont gagné un certain nombre de matchs. Et
Oui.
finir avec une fiche de 7-9, je vois bien Adam Gase arriver en fanfaronnant et en disant: vous avez vu, avec toutes les blessures qu'on a eues, finir à 7-9, c'est pas si mal que ça. Donc,
Et mine de rien, ils ont une bonne défense.
oui, clairement, bien sûr. Et puis, faut pas oublier qu'ils restent quand même sur une victoire face aux Steelers, qui était impliqué quand même dans la course au playoff, hein. Donc, même contre des équipes qui ont des coups à jouer, c'est pas non plus, c'est pas la pire équipe de la ligue, hein. Aux dernières nouvelles, même s'ils ont perdu à Cincinnati, ils en sont pas au niveau des Bengals cette saison. C'est un match où je dois jouer calculateur, donc j'ai mis les Bills comme beaucoup de mes comparses.
Tout le monde.
Mais très franchement.
Oui, non, mais je suis
Ce
d'accord.
match-là, je le vois à 80% tourné vers New York.
Je suis assez d'accord au sens où c'est très compliqué. Là, il y a quelques matchs avec des histoires de titulaires au repos, pas au repos. C'est un peu compliqué à voir. Donc, on a tous mis les Bills, en effet, mais il sera très compliqué à jauger ce match. Une petite aparté, Greg, est-ce que tu crois aux histoires de comptes Twitter cachés d'Adam Gaze? Je sais pas si est-ce que tu as vu passer ça ou pas?
Alors, j'ai vu passer ça très très rapidement, mais.
Alors, on a mis ça sur le chat de la rédac, on en a parlé entre nous, ça valait pas vraiment un article parce qu'il n'y a pas de preuve vraiment solide que ce soit lui. Mais apparemment, il a un compte Twitter où il défend les choix d'Adam Gaze, en tout cas, cet internaute, en permanence. Et sinon, il y a une autre info qui vient, apparemment, je crois, vient du New York Post, si je dis pas de bêtises, qui dit qu'en privé, Adam Gaze dit qu'il en a rien à faire de tous les gens qui critiquent parce qu'il est riche.
Oh,
parce que...
ça m'étonnerait pas non plus, mais bon, encore une fois, après.
J'ai beaucoup aimé ces infos, mais les tweets sont assez savoureux, mais encore une fois, si c'est vraiment lui, où il passe son temps à... Mais du coup, il lâche des trucs sur les désaccords au moment de drafter un tel ou un tel, il dit que les médecins de l'équipe sont en retard sur les technologies par rapport à tous les autres médecins NFL et que c'est pour ça qu'ils ont plein de blessés, enfin c'est
Écoute,
assez
moi
bizarre.
je sais pas si c'est vrai ou pas. Maintenant, je trouverais ça bizarre que. Enfin, c'est quand même des mecs qui. Il y a quand même pas mal de personnes autour de lui, quoi. Donc, je veux dire, à un moment donné,
Ouais.
si ça se découvre, perdre justement la quantité d'argent qu'il a à sa disposition sur un limogeage comme ça pour faute professionnelle,
Ouais, je sais
ce
pas.
serait quand
Mais
même.
moi, ce que je trouve incohérent, c'est que s'il dit à tout le monde qu'il a trop de pognon pour en avoir quelque chose à secouer de ce que disent les gens, pourquoi il se créerait un compte Twitter pour répondre aux gens, en l'occurrence?
Ouais, bah oui, c'est pour ça, ouais, c'est. Bon. Bon, après, il me semble que là, c'est. Il me semble que la source. Je
C'est
crois qu'elle est.
comment il
Manish Mehta,
Barstool
non?
Sport.
Non?
Manish Mehta pour l'histoire du pognon et Barstool Sport pour
Oui,
l'histoire
je
du
crois que
compte
c'est un.
Twitter,
Je
je
crois que c'est
crois.
un reporter assez controversé du côté de New York, je crois.
Ouais, non mais c'est
Bon.
pour ça qu'on n'en a rien fait sur le site, pour être très honnête. Detroit Lions, 3 victoires, 11 défaites, 1 nul. Packers, 12 victoires, 3 défaites. Victoire égale semaine de repos pour Green Bay. vu l'état de la défense de Détroit, vu que c'est toujours David Blow le quarterback, ça semble assez criminel si Green Bay n'a pas une semaine de repos après ce match.
C'est ça, parce que défaite de Détroit égale au moins troisième choix de la draft assuré.
Oui, en plus, eux, ils ont ça. Mais a priori, là, Green Bay doit pouvoir faire quelque chose.
Oui, c'est ça. Si... En attendant de voir si San Francisco peut éventuellement se prendre les pieds dans le tapis du côté de Seattle, Green Bay aurait tout intérêt quand même à assurer cette victoire contre une équipe de Détroit qui est plus qu'en roue libre depuis un bon mois et demi maintenant. Donc oui, j'irai quand même avec les Packers sur ce match-là.
Et pour la stat, les Packers n'ont perdu que 12 ballons en NFL, 12 ballons cette saison. Ils sont deuxièmes en NFL derrière les Saints qui jouent contre les Panthers. C'est notre match suivant. Panthers, 5 victoires, 10 défaites. Les Saints, 12 victoires, 3 défaites. Alors les Saints, comme Green Bay, doivent gagner et espérer... Les Saints doivent gagner et espérer défaite des Packers ou des 49ers pour avoir une semaine de repos. Donc Sean Payton a dit qu'ils vont jouer à fond. On parle beaucoup de l'attaque des Panthers à cause des changements de quarterback, mais la défense est quand même plus du tout la force qu'elle était à une époque. Ils prennent 374 yards par match cette saison, c'est 23e. Alors c'est pas le fin fond de la ligue, mais c'est quand même pas les standards Panthers.
Non, c'est ça. Il y a un run stop qui clairement a disparu au fil des mois, incarné notamment par un.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Le Kikli qui est clairement pas dans sa meilleure saison NFL. Et puis il y a un pass rush qui n'était pas si intéressant que ça en début de saison, notamment par le biais du rookie Brian Burns, et qui pareil a fini par se déliter petit à petit. Je pense que cette réorganisation du système défensif de la part de Ron Rivera a un temps été intéressante, mais c'est vrai que ce front 3 a l'air d'apporter un peu plus de contraintes, ou en tout cas ces dernières années plus globalement. Hormis qu'à One Short, il y a quand même eu pas mal de soucis sur ce poste-là et ça commence vraiment à se ressentir et ça va être un poste à clairement considérer pour les Panthers dans les mois à venir. Et ça a été la base de leurs principaux soucis, et ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment face à des bonnes lignes offensives, et là ils vont tomber contre une bonne O-line comme celle des Saints, ça peut être assez compliqué et c'est ce qui m'amène à aller vers la Nouvelle-Orléans sur ce match-là aussi.
Alors les Saints pour moi aussi, Will Greer, on avait débriefé mardi, on en reparlera l'autre mardi, ça avait été compliqué. Juste pour dire un mot, donc on donne tous les deux les Saints, il n'est pas là mais il faut quand même qu'on le notifie. Raoul Villeroy a parié sur les Panthers, il a dit sur le chat il y a 10 minutes, les Saints vont lâcher ce match, mark my words. Donc voilà, on vous prend à témoin tous aussi dans l'émission.
En même temps c'est un ancien fan des Panthers, c'est peut-être ça qui ressurgit également.
C'est vrai, manque de lucidité passager, mais... Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, après, on aura tous l'air bêtes s'il avait raison. Vikings, 10 victoires, 5 défaites. Bears, 7 victoires, 8 défaites. Minnesota sera numéro 6, quoi qu'il arrive. Est-ce que les titulaires vont jouer? Mystère au moment où on enregistre. Ils sortent d'un mauvais match en attaque contre les Packers, donc ce serait peut-être pas une mauvaise idée pour leur mettre un coup de pied aux fesses. Après, il y a toujours le dilemme. Si t'as un de tes titulaires importants qui se blesse, t'as l'air bête aussi. Ils ont perdu 16-6 à l'aller contre les Bears. En plus, ils n'avaient marqué que dans le dernier quart. Leur jeu au sol avait été stoppé, ce qui m'amène à quand même quelque chose d'assez évident. Je sais même pas si c'est une question, mais ils ont l'air complètement dépendants de Dalvin Cook, qui n'était pas là contre Green Bay, et ils ont complètement pris l'eau, quoi.
Oui, bah en tout cas le Kirk Cousins hyper dominateur qu'on avait pu voir notamment sur la période octobre-novembre, ça a l'air d'être un peu plus délicat ces dernières semaines. Là en l'occurrence, il joue pas un foudre de guerre avec une défense de Chicago qui est pas aussi intimidante que l'année dernière, en tout cas qui punit pas autant l'adversaire que l'année dernière, parce que je crois qu'en termes d'interception, c'est une des plus mauvaises de la ligue, ce qui était clairement pas le cas la saison passée. Y a moyen de laisser du temps du côté de cette ligne offensive de Minnesota face au pass rush, mais c'est sûr que si le jeu au sol n'arrive pas vraiment à trouver un relais efficace de Dalvin Cook, ce qui avait notamment été le cas contre Green Bay, ça peut être assez compliqué. Alors là, c'est typiquement pareil. C'est comme le Buffalo Jets de tout à l'heure. Est-ce que Chicago va essayer de se rassurer en se disant, tiens, vous avez vu, on finit quand même la saison à 8-8. Alors que, bon, il y a jamais vraiment un moment dans la saison où on s'est dit que les Bears étaient vraiment des candidats crédibles, potentiellement crédibles en playoff. J'y vais avec Minnesota d'un point de vue stratégique. Là encore, soyez pas étonnés si Chicago s'impose. On rappelle qu'ils étaient allés gagner, à Minnesota en dernière semaine, déjà l'année dernière, pour assurer leur place en playoff.
Mais écoute, tout pareil que toi. Vikings, pour les mêmes conséquences, je te suis totalement. Donc Vikings, pour tout le monde d'ailleurs dans l'équipe. Cincinnati Bengals, une victoire, 14 défaites. Browns, 6 victoires, 9 défaites. La bataille de l'Ohio, sans enjeu. Le talent évidemment du côté de Cleveland. Bon, c'est toujours difficile de savoir s'ils vont imploser ou pas. On part sur les Browns au talent.
Ouais, il y a un enjeu pour moi sur ce match-là, c'est de savoir si les Browns perdent et s'ils perdent de salle, auquel cas Kitchens risque de sauter. Je pense quand même qu'ils devraient le garder une saison de plus, mais voilà, il faudra vraiment que Cleveland gagne avec la manière, tu l'as dit, contre un rival local.
Tu penses qu'ils doivent le garder ?
Ah, je ne dis pas qu'ils doivent le garder, je dis
qu'ils vont le faire.
Je pense qu'ils vont le garder, c'est pas,
d'accord,
pas
autant pour moi, ouais.
Mais en effet, de par ce qu'on voit ces dernières semaines, la lourde défaite à Arizona, le fait qu'ils n'aient pas montré grand-chose non plus contre Baltimore, là, si en plus ils perdent contre Cincinnati, bon, qui est clairement en roue libre, là, qui est assuré du premier choix de la draft, il faudra voir les conditions, mais c'est vraiment le seul enjeu. Je te rejoins globalement d'un point de vue logique, j'irai vers Cleveland quand même.
C'est vrai que ça pourrait être le détonateur, ouais, c'est bien vu. Tampa Bay Buccaneers, 7 victoires, 8 défaites. Falcons, 6 victoires, 9 défaites. Est-ce qu'une victoire sauve Dan Quinn ? Parce que j'entends un Matt Ryan qui commence à dire « Oh, ce serait bon, un bon élan pour l'année prochaine, d'enchaîner les victoires en fin d'année, ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Donc là, si Jameis le Généreux leur donne 2 interceptions pour arriver à son total de 30, qui a l'air d'être son objectif, et qu'Atlanta s'en sort, est-ce que Dan Quinn, avec 7 victoires, 9 défaites, dit « J'ai bien fini ?»
Écoute, on m'a posé la question. Moi, je pense que Dan Quinn a écoulé suffisamment de crédit. On lui en a laissé l'année dernière et il a décidé de ne pas s'occuper de la défense et de faire des ajustements à partir de la 10e semaine de saison régulière. Donc moi, déjà, à partir de ce moment-là, ça le discrédite un peu. Mais écoute, visiblement, il a la confiance d'Arthur Blank qui a accepté, malgré la très mauvaise fiche de début de saison, de lui laisser un petit peu plus de temps. C'est sûr que là, en ayant une fiche de 1-7, si on te laisse du sursis et que tu reviens avec une fiche potentiellement à la fin de la saison de quoi, 6-2 en l'occurrence, bon, ouais. Il peut éventuellement avoir du sursis, mais je ne suis pas sûr que ce sera vraiment une solution viable sur le long terme. C'est un match qu'Atlanta peut gagner.
C'est les Buccaneers, donc l'équipe d'en face peut toujours gagner ou perdre, hein. Ça dépendra de...
Tampa avait gagné avec la manière du côté d'Atlanta au match chalet. Après, franchement, c'est un match où il va y avoir 18 touchdowns. Ça va tourner d'un côté ou de l'autre.
J'y vais avec
Tampa d'un point de vue fiche, mais très franchement, Atlanta a toutes les chances de le gagner celui-là aussi.
Ben, je vais y aller avec Atlanta justement pour essayer de te grappiller un point, mais de toute façon, je suis jamais confiant quand je parie sur les Buccaneers, donc quitte à parier, voilà. On sait jamais ce que va faire Jameis Winston, donc ce sera Falcons de mon côté. Dimanche à 22h25, on vous rappelle, vous aurez 8 matchs à 19h, 7 à 22h25 et un seul match évidemment en prime time. Les Giants, 4 victoires, 11 défaites contre les Eagles, 8 victoires, 7 défaites. Une victoire et les Eagles sont en playoff, c'est aussi simple que ça. Ils ont une attaque avec des blessés, mais avec Vance, Miles Sanders. Ils peuvent a priori largement déborder une des pires défenses de la ligue, puisqu'il n'y a quand même pas grand monde à New York. Mais est-ce qu'ils sont en danger, eux, de se faire déborder par un Saquon Barkley et un Daniel Jones qui ont été quand même assez flamboyants, lors du dernier match?
Alors forcément, c'est des contextes qui sont différents. J'ai longtemps cherché cette saison la fameuse clé mentale du côté de Philadelphie qui est jamais arrivée. Est-ce que le déclic serait arrivé avec cette victoire contre Dallas qui les met vraiment en position de force juste avant la dernière marche? C'est fort possible. Je jouais les Eagles parce que par rapport justement à cet état de fait, maintenant, de ce que j'ai vu au match aller, alors on me dira au match aller, les Giants sont pas loin de s'imposer non plus. Ça se joue en prolongation pour Philadelphie, dans un contexte où en effet, du côté des Eagles, on n'avait pas trouvé. En tout cas, on n'avait pas un Miles Sanders qui est dans sa forme actuelle, un Greg Ward qui est sorti du chapeau au niveau du poste de receveur. Je pense que déjà le déclic offensivement, il y a eu quelques petites révélations pour certains joueurs qui ont clairement changé la donne. Donc je joue Philadelphie, Mais c'est un match qui me fait extrêmement peur pour les Eagles et je sens le soufflet retomber sur le tout dernier match. Cette défaite face aux Giants de manière assez inattendue contre une équipe de New York qui offensivement tourne pas trop mal ces dernières semaines. Alors ils ont joué Miami et Washington, c'est pas extraordinaire, mais offensivement, même quand Eli Manning a pris le relais de Daniel Jones, ça tenait à peu près la route, donc méfiance pour Philly.
On est encore une fois d'accord, je vais parier sur les Eagles, mais attention, Zach Ertz a des côtes cassées, attention, c'est un match de division, les Giants se battent, Pat Shurmur veut garder son job a priori, et il lui faudrait encore une petite victoire de plus, ça ferait pas de mal pour solidifier sa position. Donc attention quoi, Eagles, mais attention. Et je notifie encore une fois que Raoul Villeroy parie en seul contre tous puisqu'il prend les Giants alors que tout le reste de l'équipe prend Philadelphie. Raoul est en mission suicide.
On dira qu'il prend des risques, nous on n'ose pas les prendre.
Ah bah il prend des risques, c'est-à-dire qu'il y a trois matchs où il est seul contre tous que je vois sur l'affiche. Il y en a un autre à venir et il est aussi quasiment seul. Ouais, il y a beaucoup de risques. C'est-à-dire que là, il est en train de... Il a décidé de jouer le tout pour le tout un petit peu sur la dernière semaine. Les Cowboys, 7 victoires, 8 défaites. Redskins, 3 victoires, 12 défaites. Les Cowboys peuvent aller en playoff avec une victoire plus une défaite des Eagles. Si Philadelphie perd, les Cowboys peuvent aller en playoff en gagnant. Normalement, ce match est largement à leur portée. Ils ont statistiquement une attaque qui gagne quasiment 150 yards de plus que celle de Washington. Ils ont une meilleure défense. Les Redskins ont une des pires défenses au sol de la Ligue, alors que les Cowboys ont Ezekiel Elliott. A priori, ils ne peuvent pas perdre ce match.
En tout cas, en ce moment, rien n'est moins sûr avec Dallas. On a vu qu'un Ezekiel Elliott face à un bon run stop d'ailleurs des Eagles avait quand même pas mal galéré le week-end dernier. C'est compliqué. Après, est-ce que vraiment, je pense quand même que cette équipe de Dallas aura les moyens de marquer suffisamment de points à Washington. Je suis pas sûr que l'attaque des Redskins, même en étant un poil meilleur ces dernières semaines, sera capable d'avoir autant de répondants que ce qu'on a pu en voir contre les Giants. Mais je vais jouer la sécurité, c'est du côté de Dallas. Ça me paraît quand même capable de tourner en faveur des Cowboys. Je pense que Jason Garrett va essayer de se garder également un certain crédit, puisqu'on rappelle que bon, pour lui l'objectif c'est pas juste de finir à 5-11 comme Pat Shurmur, hein. Faut au moins avoir un bon parcours en playoff pour sauver sa place. Donc, il faut déjà se donner le maximum de garanties. J'y vais avec Dallas, mais bon, enfin, c'est comme Philadelphie. Hein. Encore une fois, c'est pas juste pour taper gratuitement sur Philadelphie. Hein. Dallas, cette saison, s'ils étaient régulés, ça se saurait. Mais c'est quand même à la maison, donc Dallas en l'occurrence.
Allez, Dallas pour tout le monde. Texans, 10 victoires, 5 défaites. Titans, 8 victoires, 7 défaites. Une victoire et les Titans sont en playoff. C'est aussi simple que ça. Les Titans seront quand même aussi qualifiés s'ils perdent, mais que les Steelers et les Colts perdent aussi. Les Texans, eux, seront 4e. Quoi qu'il arrive, ils prévoient de faire jouer leurs joueurs titulaires parce que Bill O'Brien et Colby Belichick, tout ça. Victoire de Houston, 24-21 en semaine 15. Deux équipes très proches, assez difficiles à pronostiquer comme d'habitude, surtout dans ce genre de match de division, avec deux équipes qui peuvent avoir quand même des gros ratés, surtout Houston qui a eu quand même quelques matchs où ils ne sont pas sortis du vestiaire cette année. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence selon toi?
Alors tu me rappelles, Derrick Henry revient sur ce match-là?
Alors a priori oui. Au moment où on se parle, c'est la tendance.
Ah, c'est déjà une clé importante, hein, parce qu'on a vu que Tennessee contre les Saints, il n'y a pas eu 20 points d'écart dans un match où il te manque ta principale star offensive. Ryan Tannehill m'a pas semblé largué très loin de là. Il a continué d'être à peu près dans ses standards sur des matchs, sur un match à enjeu. Là, certes, c'est toujours la même chose. Houston va pas forcément faire tourner les titulaires tout de suite, mais est-ce que vraiment Bill O'Brien va garder Deshaun Watson, DeAndre Hopkins ou des joueurs comme ça sur 4 cartons? J'en suis pas persuadé.
Ouais, et puis moi je mets les Titans sur le principe qu'ils vont être plus motivés et qu'en effet, déjà que Bill O'Brien a du mal à les avoir prêts pour des matchs en jeu, je me dis que sur un match où il n'y a pas grand chose à jouer, voire rien du tout, je vais y aller sur les Titans.
Oui, non, je dirais les Titans en l'occurrence. Là, la défaite de Pittsburgh chez les Jets les a quand même mis dans une position éminemment enviable, donc c'est sûr que même s'ils ont perdu à l'aller contre Houston, qui était beaucoup plus concerné, qui sortait d'une rouste à domicile contre Denver. Là, je vois quand même Tennessee être un peu plus impliqué.
Ravens, 13 victoires, 2 défaites. Steelers, 8 victoires, 7 défaites. Alors, on parlait de matchs difficiles à pronostiquer. Celui-là, les titulaires des Ravens seront au repos. Les Steelers peuvent aller en playoff en cas de victoire plus défaite des Titans. Ou alors, défaite des Titans, des Raiders et victoire des Colts. Bon, là, je vous laisse noter tout ça. Mais, même face aux remplaçants des Ravens, j'y crois pas tant que ça, tant cette attaque de Dallas, de Pittsburgh, pardon, est à l'agonie. Sur les deux derniers matchs, Delvin Hodges, c'est un touchdown pour 6 interceptions. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas les titulaires que John Harbaugh et son staff savent pas coacher une défense. Et j'ai tendance à me dire que ça passe quand même, quoi, quasiment. Enfin, ça va être très incertain, c'est très compliqué. Mais je vois pas Pittsburgh marquer plus de 20 points, même face aux remplaçants des Ravens, quoi.
Je sais pas, alors c'est sûr que cette défense des Ravens, elle est meilleure ces dernières semaines, c'est sûr. Maintenant, je l'ai souvent dit cette saison, elle n'est pas aussi intimidante, pardon, d'un point de vue titulaire que ce qu'elle a pu être ces dernières années. Donc avec des remplaçants,
non mais c'est pas facile. Moins,
voilà, on le sait. Hein, je te rejoins, c'est globalement bien coaché, donc bien entendu qu'ils sont capables de provoquer des pertes de balles. Et on a vu avec Devin Hodges que, enfin, c'est quel match où il en fait 4, c'est lors du Monday Night, je sais plus contre qui.
Oui, j'en trouve.
Contre Buffalo. Mmh. Match contre Buffalo où il se fait pas mal intercepter, donc c'est sûr que ça peut être préjudiciable pour Pittsburgh, même sans avoir tous les titulaires en face. Mais sur un match, je pense, où ça va quand même beaucoup faire tourner du côté de Baltimore, où défensivement, quand même, du côté de Pittsburgh, il y a de quoi maintenir l'attaque des Ravens si c'est pas Lamar Jackson et ses collègues qui jouent.
Ah, c'est très solide, hein. C'est pour ça que ça le rend difficile à pronostiquer. C'est que Pittsburgh a cette grosse défense.
Même avec la défense de Baltimore, même avec les remplaçants défensifs qui peuvent maintenir, on dira, Devin Hodges et ses coéquipiers à un certain nombre de points, on peut avoir une belle victoire des Steelers 13 à 10 acquise dans le quatrième quart. Donc,
complètement.
J'irai avec les Steelers parce qu'il y a plus d'enjeux et parce que les Ravens, de toute façon, première place assurée, ils n'ont pas forcément à forcer leur talent sur ce match-là, même si. On sait que Ravens Steelers, bon, il y a toujours une petite suprématie qui essaie de s'installer dans la NFC Nord. J'y vais quand même avec Pittsburgh sur cette rencontre.
Eh bien, Pittsburgh, tu seras tout seul. Tout le monde a pris les Ravens, y compris moi. Broncos, 6 victoires, 9 défaites. Raiders, 7 victoires, 8 défaites. Les Raiders seront qualifiés en cas de victoire, plus défaite des Steelers, défaite des Titans et victoire des Colts. Ils passeraient devant Pittsburgh sur la difficulté du calendrier. Les Broncos sont chauds, 3 victoires en 4 matchs. Les Raiders ont gagné l'opposition entre ces deux équipes 24 à 16 en semaine 1. Josh Jacobs est sur le chemin du retour. Ils ont fait un bon match contre les Chargers. Ils sont encore en vie. C'est un match plutôt incertain parce que Vic Fangio et les Broncos font une bonne fin de saison. On a deux équipes plutôt dépendantes de leur jeu au sol et plutôt une meilleure défense du côté de Denver, en tout cas sur les talents présents. Donc dur à pronostiquer sur la dynamique, je te dirais Oakland, mais même pas tant sûr que ça d'ailleurs, parce que la dynamique des Broncos est plutôt bonne ces dernières semaines.
Ouais, en tout cas de ce que j'en vois ces dernières semaines, c'est sûr que Denver a l'air un peu plus chaud, même si en effet cette victoire d'Oakland du côté de Los Angeles leur a fait beaucoup de bien. Maintenant, paradoxalement, tu vois, j'étais plutôt optimiste pour les équipes qui avaient leur destin en main contre des équipes qui n'avaient plus rien à jouer. Cette équipe d'Oakland, je la trouve quand même très irrégulière dans cette deuxième partie de saison. On sait que défensivement, ils ont quand même du mal à punir les erreurs adverses. Et encore plus de ce qu'on a vu à l'instar du match contre Jacksonville, ils ont aussi du mal à concrétiser leur moment fort. Donc c'est sûr que contre une équipe de Denver qui est solide sans être extraordinaire depuis le début de la saison, qui, comme je l'ai dit, pourrait largement avoir une fiche un peu meilleure sans que ce soit vraiment infamant. Voilà, voir les deux équipes, très franchement, de ce qu'on a vu de Denver et d'Oakland cette saison, voir les deux équipes finir la saison régulière à 7-9, c'est pas ce qui me choquerait le plus. Donc j'irai plutôt vers les Broncos sur ce match-là.
Je vais sur les Raiders parce qu'ils ont l'enjeu, mais c'est pareil, c'est pas un match où je suis ultra sûr de mon choix et ça fait partie des nombreux pile ou face de la semaine, donc je vais dire Raiders. Les Jaguars à 5 victoires, 10 défaites, les Colts à 7 victoires, 8 défaites, qui va finir le moins mal la saison, parce qu'en ce moment ça se passe quand même pas très bien des deux côtés. Les Jaguars ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs, les Colts ont perdu 6 de leurs 8 derniers matchs. Deux quarterbacks qui ont été un peu hype à un moment et sur lesquels on commence à avoir des doutes maintenant, Jacoby Brissett et Gardner Minshew. Là encore, c'est plutôt dur à pronostiquer. Moi je le dis tout de suite, je vais prendre les Colts parce que je joue au sol et qu'ils arrivent à peu près à garder un fond de jeu là-dessus. Mais ça reste un match de fin d'année entre deux équipes qui sont éliminées, donc ça c'est compliqué aussi.
Ouais, moi je vais avec les Colts parce que Doug Marrone et parce que fin de saison très clairement en roue libre. L'école, on sait qu'il y a eu des blessures qui n'ont pas forcément facilité les choses du côté de Jacksonville. Bon, je vois pas énormément de motifs qui expliquent, hormis le manque d'intérêt en interne, ces difficultés. Donc voilà, il y a eu une victoire sur un malentendu du côté d'Oakland, mais je vois Indianapolis remporter ce match-là.
Les Rams, 8 victoires, 7 défaites. Cardinals, 5 victoires, 9 défaites, 1 nul. Kyler Murray est incertain. Les Rams ont une meilleure attaque et une meilleure défense sur la saison. 34-7 pour les Rams contre les Cardinals plus tôt dans l'année. Bon, Jalen Ramsey est forfait, mais dans l'ensemble, les Rams ont quand même assez au-dessus de cette équipe d'Arizona, surtout si Kyler Murray est absent.
Oui, enfin après, on voit que du côté d'Arizona, même sans quarterback, Kenyan Drake en ce moment il marche sur l'eau. Hein, donc je sais plus, ça fait 2-3 rencontres de suite où. C'est quasiment l'un des meilleurs running backs de la ligue, donc ça va être quand même à voir. Je disais que tout à l'heure le run stop des Rams avait été à peu près satisfaisant contre San Francisco, même si le backfield offensif californien s'était pas mal partagé le ballon. Mais c'est sûr que bon, Los Angeles a priori a quand même de quoi finir sur une bonne note, une saison qui a été extrêmement irrégulière, donc finir à 9-7 en effet avec une attaque qui termine sur une bonne note face à une défense qui est pas extraordinaire cette saison, ça me paraît quand même la moindre des choses.
Et les Rams donc pour tout le monde. On termine avec le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. On l'a dit, Seahawks 11 victoires, 4 défaites. San Francisco 49ers 12 victoires, 3 défaites. C'était notre affiche de la semaine. Tu as donné les 49ers et j'ai donné aussi les 49ers. Raoul Villeroy est le seul à prendre les Seahawks dans l'équipe, donc encore une fois, il est seul contre tous. Il peut gratter du point, hein. Il peut remonter fort si tous les
pronos. Il a été en tête pendant une bonne partie de la saison régulière, donc je pense qu'il se dit c'est bon, on peut m'atteindre.
C'est ça. Voilà pour les pronostics de la semaine 17. On passe aux cotes. Les meilleures cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Grégory, c'est à toi de jouer pour la première cote.
Alors ça va faire partie de mes fameuses cotes pas du tout contradictoires parce que en effet j'ai joué San Francisco au niveau des pronostics, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, du coup Seattle avec une très bonne cote, une cote à 2,30, peut potentiellement déjouer les pronostics. Ça se joue au CenturyLink Field dans un match en prime time en dernière semaine de saison régulière. C'est typiquement le genre de contexte où jouer Seattle ça va être extrêmement compliqué. Surtout pour un Jimmy Garoppolo dont on ignore encore totalement ce qu'il est capable de donner sous la pression dans des moments clés. Donc on n'est pas à l'abri d'un quarterback qui potentiellement pourrait déjouer dans une ambiance aussi hostile que celle-là. Et en effet, même si San Francisco est favori légitime de ce match-là, jouer Seattle à 2,30 sur un match qui, comme à l'aller, peut éventuellement jouer sur un coup de dé avec les Seahawks qui à l'époque s'étaient imposés en prolongation, je me dis... ça peut éventuellement valoir le coup de se tenter.
Bon, et puis en plus, le public est déjà chaud d'habitude. Imagine là, avec le retour de Marshawn Lynch, il y a des Skittles qui vont voler de partout. Ça va être incroyable. Les Ravens, pour moi, à 1,95. Je l'ai dit, match très incertain face aux Steelers. On en profite pour une fois qu'ils sont outsiders, cette équipe de Baltimore. 1,95. La cote bonus dans le match Titans-Texans. Les Texans sont à 2,30. Ça reste quand même une opposition. C'est pareil, on est un peu dans le contradictoire parce qu'on a pronostiqué les Titans. Mais les Texans, dans un match de division comme ça, ont quand même un vrai coup à jouer. S'ils jouent leur titulaire une bonne partie du temps, à 2,30, c'est quand même une cote qui se tente. Donc les Ravens 5,95, les Seahawks à 2,30 et les Texans à 2,30, ça vous fait un combiné à 5 euros misé, 51,58 de gain potentiel. Le YOLO Grégory, alors on garde Ravens, Texans et Seahawks. Et on a des petites cotes quand même pas mal parce que t'as un Raiders qui joue, on l'a dit, j'ai un trou parce que je les avais sous les yeux il y a 2 secondes, contre les Broncos, voilà. Match incertain et pourtant les Raiders sont à 2,25 en étant quand même une équipe qui joue quelque chose, donc ça se tente. Les Jaguars dans un match quand même assez incertain contre les Colts aussi de fin de saison, 2,40 pour les Jaguars, donc on va rajouter ça au YOLO. Et puis les favoris, alors va y avoir un peu de repos, mais ils ont quand même la défense pour aller le chercher. Les Bills sont à 1,70 contre les Jets. Donc Ravens, Seahawks, Texans, Raiders, Bills, Jaguars, c'est le YOLO, 10 euros misé, 1040,66 euros.
Ça m'étonne que tu n'aies pas mis les Giants, qui sont à quoi, 2,50.
Ouais, j'ai hésité. J'ai hésité, ça faisait partie des bonnes cotes en effet. Les Giants à 2,50 contre Philly, ça peut être pas mal. Ouais. Ça faisait partie en effet des bonnes cotes. Sur le Buccaneers Falcons, si vous êtes confiant sur une équipe aussi, c'est des bonnes cotes. Hein. 70 pour Tampa, 1,88 pour Atlanta, il y a quelque chose à jouer aussi. Les Vikings sont à 1,70 contre les Bears aussi. Voilà, il y a des petites choses à prendre comme ça. Donc faut pas hésiter à aller faire un tour. Encore une fois, ça se passe chez notre partenaire Unibet. Et justement, on vous remercie d'avoir suivi cette émission du jeudi qui vous est présentée à part Unibet depuis le début de la saison et même depuis 3 ou 4 ans. On les remercie d'être avec nous. C'est comme ça que se termine l'épisode 333 du podcast Jeun Actu. Merci donc à notre partenaire. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Grégory, tu voulais dire quelque chose? J'étais vu au chat.
Non, pas du tout. J'opine du chef.
Et bah c'était l'occasion pour moi de te remercier de ta présence dans cette émission et de te dire à très bientôt. Très bientôt à tous aussi. Si vous voulez nous suivre, les réseaux sociaux, @TDActu sur Twitter, @TDActu sur Facebook, @TouchJeunActu en entier sur Instagram, @YellowRadioSa pour Grégory sur Twitter, @AlainMattei pour moi-même, @RaoulVDG, @Raphaël_TD et @CamisSarabène pour nos camarades qui sont là sur les autres émissions. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur TDActu.com. On vous souhaite une très bonne fin de semaine, de très bonnes fêtes à tous évidemment. Profitez-en et on se retrouve lundi pour le débrief de la dernière semaine de la saison régulière. Éclatez-vous bien dimanche. On se retrouve bien sûr dans le fauteuil à 18h, hein, j'ai oublié de préciser, mais voilà, on se retrouve dans le fauteuil. On prendra des bonnes résolutions de fin d'année, ce sera le thème.
Dernier fauteuil du dimanche de la saison du coup. Non, pas, de, pas le dernier bah, dimanche parce qu'il y aura, après, il y aura après Super Bowl.
Ah bah après il y aura des fauteuils tous les dimanches pendant les playoffs aussi.
Ah c'est pas le samedi? Ah d'accord, j'avais jamais cru.
Non, on va rester le dimanche. Pardon. A priori. Ouais, on va rester le dimanche. Voilà, en tout cas, dernier fauteuil de la saison régulière, mais après on sera là pendant tous les dimanches de playoffs et le pré-Super Bowl bien évidemment. Merci à tous de nous suivre, on se retrouve donc dimanche 18h dans le fauteuil et très bon match à tous. Ciao ciao.
Fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.